Alors j'espère ne pas mettre les pieds dans le plat, mais il y a 3 ans, un roman est sorti aux États-Unis qui a rencontré un succès phénoménal, notamment dans les milieux chrétiens. Il s'agit de l'histoire d'un père de famille chrétien dont la petite fille de 5 ou 6 ans est enlevée, puis assassinée par un psychopathe. Et au plus profond de sa douleur, le père de la victime reçoit un jour une invitation à rencontrer Dieu le temps d'un week-end. Cette rencontre, évidemment, va finir par le consoler de sa souffrance et changer le cours de sa vie. C'est une belle et poignante histoire, un grand succès, je vous l'ai dit. Mais, c'est là que j'espère ne déranger personne, gêner personne, mais le problème, à mon avis, c'est que le Dieu présenté dans ce livre, comme étant le Dieu des chrétiens, n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un faux Dieu, grossièrement déguisé en Trinité, une imposture du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu le Père, dans cette histoire, se révèle sous les traits d'une femme afro-américaine bien portante, Dieu le Fils sous les traits d'un artisan palestinien un peu maladroit, et puis Dieu le Saint-Esprit sous les traits d'une espèce de grande fée tout droit sortie d'une bande dessinée japonaise. Et au fil du livre, on découvre que ce Dieu-là, c'est un Dieu, par exemple, qui dénigre l'enseignement de la Bible. C'est un Dieu qui est contre le concept de l'autorité. C'est un Dieu qui définit la sainteté, je cite, comme étant quelque chose de simple, de chaleureux, d'intime et d'authentique. Et c'est un Dieu qui appelle tous les êtres humains ses enfants. Et ce Dieu, en fin de compte, ressemble davantage, à mon avis, on peut en discuter, hein, si vous voulez, mais en tout cas, à mon avis, c'est un Dieu qui ressemble davantage à la grande déesse mère du paganisme, plutôt qu'au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un succès phénoménal, y compris dans les milieux chrétiens. Et vous savez, ce livre, intitulé La Cabane, a été traduit en français et publié il y a un peu plus d'un an, en mars 2009 donc, par une maison d'édition spécialisée, tenez-vous bien, dans l'ésotérisme, les arts divinatoires, la franc-maçonnerie, le chamanisme et toutes les autres sciences occultes. Et malgré cela, vous pouvez quand même acheter ce livre sur le site de la librairie chrétienne CLC, par exemple, et même ce livre figure en deuxième position parmi les meilleures ventes de la librairie en ligne, protestante en ligne, qui s'appelle C'est ici. Vous pouvez aller vérifier. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est un peu controversé, je ferme la parenthèse, mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que j'ai une question à soulever. J'ai une question à soulever. Êtes-vous sûr que votre Dieu est le bon? Est-ce que vous adorez le bon Dieu? Et comment le savoir? Alors, en grande majorité, les Français se disent croyants, je vous apprends rien. Hein. Et vous-même, si vous vous trouvez ici ce matin, c'est qu'il y a de fortes chances, j'ose espérer, que vous croyez en Dieu. Et même au Dieu des chrétiens. Okay? Mais est-ce que c'est suffisant? À l'époque du prophète Amos, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, le peuple d'Israël, lui aussi, disait qu'il croyait en Dieu. Il disait même qu'il servait l'Éternel, Yahvé, le Dieu de l'Alliance. Et cela n'a pas empêché Dieu de prononcer des sentences terribles contre son propre peuple, contre le peuple qui portait son nom. Ça, on l'a vu déjà, hein, depuis le temps qu'on étudie ce livre du prophète Amos, depuis plusieurs semaines. Alors, comment savoir si votre Dieu est le bon? La réponse, en principe, est très simple. Votre Dieu est le bon si c'est le Dieu de la Bible. Votre Dieu est le bon si c'est le Dieu de la Bible. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Et si vous retenez au moins ça ce matin, vous aurez retenu l'essentiel. Votre Dieu est le bon si c'est le Dieu de la Bible. Mais regardons comment le texte en parle. Est-ce que votre Dieu est le bon? Êtes-vous sûr que votre Dieu est le bon? Eh bien, dans ce texte, vous savez quoi? C'est une question de vie ou de mort. Alors, on va regarder Amos, chapitre 5, les versets 1 à 15. Écoutez cette parole, cette complainte que j'entonne sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée sur sa propre terre, nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vivez, ne cherchez pas à Bethel. N'allez pas à Gilgal, ne vous rendez pas à Beersheba, car Gilgal sera entièrement déporté et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vivez. Craignez qu'il ne saisisse comme le feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore, sans personne à Bethel pour l'éteindre, vous qui changez le droit en absinthe et qui jetez à terre la justice. Il a fait les Pléiades et Orion, il change l'ombre de la mort en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre, l'Éternel est son nom. Il déchaîne la ruine sur le puissant et la ruine survient sur la place forte. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Ils ont horreur de celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé l'indigent et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux et vos péchés énormes. Vous opprimez le juste, vous le rançonnez, et vous, à la porte, vous évincez les pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, l'homme intelligent se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte le droit. Peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Joseph. On va s'arrêter là, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour le don de ta parole. Tu as daigné te révéler à nous par ce moyen-là. Permets-nous maintenant, s'il te plaît, de bien comprendre ce que tu veux nous dire. Et peut-être d'oublier tout ce qui ne vient pas de toi. Mais permets-nous, s'il te plaît, au moins de retenir tout ce que toi tu veux nous dire. Et par la puissance de ton esprit, applique-le à nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que vous êtes sûr que votre Dieu est le bon ? La première chose que ce texte nous invite à faire, je crois, pour répondre à cette question, c'est de voir la réalité en face. Amos dresse pour son auditoire un tableau absolument choquant, destiné à provoquer l'attention du peuple et à lui montrer dans quelle situation catastrophique il est en réalité, malgré sa tranquillité et sa confiance. Alors, Amos, vous l'avez vu, on l'a lu ensemble, il va entonner une complainte. Une complainte sur Israël. Le peuple, dit-il, est comme une vierge tombée à terre, une jeune femme vierge tombée à terre et abandonnée. Et puis ensuite, il ajoute que, comme un châtiment, 90% du peuple va disparaître. Vous avez noté ça au verset 3. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Hein, vous faites le calcul, ça veut dire 90% de la population va disparaître. Voilà le constat. Voilà le verdict de Dieu, en dépit des apparences. Voilà la réalité, en dépit de ce que le peuple pouvait penser à cette époque-là. Les Israélites, à ce moment-là, croient qu'ils sont en bon terme avec Dieu. Mais ce n'est pas vrai. En réalité, d'après le prophète, c'est l'apostasie, c'est la crise. Dieu invite son peuple à voir la réalité en face, à ouvrir les yeux et à se rendre compte de ce qui est, de ce qui est vrai selon Dieu, de la réalité. Il ne suffit pas d'invoquer le nom de l'Éternel, de se dire « Oui, nous, on sert l'Éternel, nous, on est le peuple de l'Alliance, nous, on est les Juifs, on est bien, on est tranquille avec Dieu. » Est-ce que vous pensez que Dieu, dans ces premiers versets, exagère le tableau? Je ne pense pas. Quel serait le verdict de Dieu concernant son peuple aujourd'hui? Au moins 60% des Français ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais d'après un sondage paru dans le journal La Croix en 2007, plus de 75% de ces chrétiens se représentent Dieu, je cite, comme une force, une énergie, un esprit. Et à la question « Selon vous, qu'y a-t-il après la mort ?», seulement 10% d'entre eux affirment croire à la résurrection des morts. 53% répondent, je cite, « qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi ». 26% d'entre eux affirment qu'il n'y a rien après la mort. 8% d'entre eux croient à la réincarnation sur Terre dans une autre vie. Quel serait le verdict de Dieu, à votre avis, concernant le peuple qui porte son nom aujourd'hui? Vous pensez que la Vierge d'Israël, cette jeune femme dans le texte, elle est debout aujourd'hui? Vous pensez qu'elle est bien portante aujourd'hui? Dieu nous invite à voir la réalité en face. On se croit tranquille parce qu'on croit en Dieu et qu'on n'a tué personne. Peut-être parce qu'on a été baptisé, peut-être parce que non seulement on a été baptisé, mais on a fait son catéchisme et sa première communion. Imaginez, alors là on est blindé, on est tranquille. Mais le point de vue de Dieu est tout autre. Et c'est son point de vue qui compte à la fin, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est prêt à accepter le verdict choquant de Dieu. En tout cas, dans ce texte, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Il faut accepter de voir la réalité en face pour comprendre que Dieu soulève une question extrêmement sérieuse. Et c'est la suivante. Quel espoir y a-t-il d'échapper à une telle situation catastrophique? Heureusement que le texte ne s'arrête pas au verset 3. Hein. Mais accepter le point de vue de Dieu sur la situation, c'est déjà le point de départ, c'est la condition pour pouvoir être attentif ensuite à ce qui va suivre. Alors regardons ce qui suit à partir du verset 4. Et dans ce qui suit, Dieu va tout de suite montrer qu'il y a un salut possible et que ce salut se trouve auprès de lui. Que dit-il, verset 4 ? Cherchez-moi et vivez. Il y a un salut possible. Mais Dieu va tout de suite préciser que pour trouver Dieu, si on le cherche, il faut accepter de le chercher en ces termes. Le problème du peuple, c'est qu'il avait été très imaginatif dans son rapport avec Dieu. Vous savez, les Israélites s'étaient créés des sanctuaires, on en a déjà parlé, hein. Ils s'étaient créés des sanctuaires que Dieu n'avait jamais commandé de construire. Ils se sont créés des sanctuaires où ils pensaient pouvoir invoquer l'Éternel. Par exemple à Bethel, ou à Beersheba, ou à Gilgal, tous des endroits où ils pensaient pouvoir invoquer le nom de l'Éternel. Mais Dieu dit qu'il ne suffit pas d'appeler un endroit Bethel, c'est-à-dire littéralement maison de Dieu, en hébreu. Il ne suffit pas d'appeler un endroit Bethel ou maison de Dieu pour que Dieu s'y trouve en réalité. Ça ne sert à rien de mettre une belle plaque maison de Dieu si Dieu n'est pas à l'intérieur. Ce ne sont pas les hommes qui fixent les conditions de leur relation avec Dieu. C'est Dieu qui fixe les conditions de la relation des hommes avec Dieu. Et Dieu dit au peuple ici, en d'autres termes, ne cherchez pas à me rallier à votre cause par des cultes propitiatoires que vous rendez dans vos sanctuaires, mais plutôt cherchez-moi en personne. Et cherchez-moi pour une raison précise, par crainte de mon jugement. C'est ça qu'il dit au verset 6. Je me souviens d'un jour où nous étions en famille, dans notre voiture, tranquillement, en train de nous déplacer à Villeurbanne. Et le chauffeur de la camionnette derrière nous, figurez-vous qu'il était enragé parce que nous roulions trop lentement à son goût. Alors on s'est arrêté à un feu rouge, évidemment, et le chauffeur est sorti de son véhicule dans une colère noire. Okay ? Il a essayé d'ouvrir ma portière que j'avais verrouillée, et il s'est mis à taper sur ma vitre en m'ordonnant de sortir de la voiture et en me couvrant d'injures. Alors j'ai dit à Suzanne, écoute... Non, j'ai pas dit écoute, j'ai dit « Suzanne, prends le portable, fais le 17, appelle la police !» Le problème, c'est que le numéro de police secours sur les portables, c'est pas le 17. Notez bien cela. C'est le 112 en réalité. Alors Suzanne s'est donc retrouvée à parler à un répondeur qui ne pouvait rien faire pour nous venir en aide. Heureusement, notre agresseur a cru qu'on parlait vraiment à la police et il est parti. Il a eu peur, il est parti. Mais de la même façon, mes amis, il ne suffit pas de croire que Dieu nous est propice. Il faut accepter de le chercher en ces termes. Au bon numéro, si j'ose dire, hein, selon ses conditions. Sinon, qu'est-ce qu'on risque ? On risque de parler à un répondeur sans qu'il y ait personne pour nous venir en aide à la fin. Ça paraît logique et pourtant, on est tellement enclin à chercher Dieu là où ça nous arrangerait de le trouver. Et pour des raisons qui ne sont pas les bonnes en fin de compte. N'est-ce pas ? Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi vous croyez en Dieu ? Quelles sont vos motivations pour croire en Dieu, pour prier Dieu, pour vous dire chrétien? Dieu nous invite ici dans ce texte à le chercher et il n'y a qu'une seule raison qui est mentionnée dans ce texte. C'est la crainte de son jugement. À cause de ce terrible tableau qu'il a dressé au début où il y a cette jeune femme vierge qui est tombée à terre, un tableau choquant, elle est là par terre et personne n'est là pour la relever, personne n'est là pour lui venir en aide. Et à cause de ce tableau qu'il a dressé au début, à cause de cette réalité selon laquelle, en fait, nous ne sommes pas en bon terme avec Dieu, alors, par crainte de son jugement, cherchons-le et vivons. C'est son invitation. Cherchez-moi et vivez. Cherchez l'Éternel et vivez. Parce qu'auprès de lui, il y a le salut. Auprès de lui, il y a la vie. Si nous acceptons de nous approcher de lui en ces termes. Et la suite du texte va nous préciser petit à petit quels sont ces termes, précisément. Alors regardons la suite, verset 8-9. Quel est ce Dieu auprès duquel il y a le salut et la vie. Et versets 8 et 9 sont là pour nous montrer de qui il s'agit. Nous nous posions la question au début de savoir si notre Dieu était le bon. Eh bien, ces deux versets-là, en plein cœur du passage, sont là pour nous montrer que ce n'est pas n'importe quel Dieu que celui qui nous invite à le chercher pour vivre. Dieu nous invite ici, dans ces deux versets, notamment versets 8 et 9, à réfléchir à qui il est. Dieu nous invite à réfléchir à qui il est. Est-ce que vous savez comment est Dieu? Ou est-ce que vous imaginez savoir comment est Dieu? Est-ce que vous savez comment est Dieu? Ou est-ce que vous imaginez savoir comment est Dieu? Ces versets sont là pour nous rappeler que le vrai Dieu, il a une histoire. Il est le créateur de l'univers. C'est lui qui soutient toutes choses. Il a créé les Pléiades et Orion. Il change l'ombre de la mort en aurore. C'est lui qui obscurcit le jour pour en faire la nuit. C'est lui qui appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. Il est le créateur et le régisseur de l'univers. Il s'est révélé en plus aux hommes à travers les prophètes. Il est même intervenu en personne pour se constituer un peuple racheté. Vous vous souvenez de l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël, d'Égypte, des Hébreux. Et comment Dieu lui-même, à bras étendus, est intervenu dans l'histoire pour délivrer son peuple, pour le racheter. Il a même révélé son nom, Yahvé, l'Éternel. Il est un juste juge également qui compte punir toute faute et personne ne saura résister à son jugement. C'est ça le Dieu dont on parle. Dieu n'est pas n'importe qui. Il a une histoire. Il a une identité. Et il s'est fait connaître en parole et en acte. Le problème, c'est que nous, on est beaucoup plus enclin à imaginer comment Dieu est qu'à nous renseigner pour savoir comment il est. C'est pas vrai? On est beaucoup plus enclin à imaginer comment il est qu'à nous renseigner pour savoir comment il est. Et dans tous les cas, il y a quelque chose de toute façon qui oriente l'idée que nous nous faisons de Dieu. Mais quoi? Est-ce que c'est un concept qu'on a hérité de notre éducation? Est-ce que c'est la projection de nos propres désirs personnels ou de notre propre image? Ou bien serait-ce une révélation objective, celle que Dieu a jugé bon de nous donner dans la Bible? Imaginez que je vous parle de quelqu'un que je connais, d'accord? Je vous dis, je connais cette personne, j'aimerais beaucoup te la présenter, elle s'appelle Gertrude Grabowski. Comment imaginez-vous a priori cette dame? Comment vous l'imaginez a priori? Comme une jeune femme, fluette, timide, délicate, attentionnée. Gertrude Grabowski. Ou imaginez que je vous parle de quelqu'un d'autre que je connais et qui s'appelle Daphné de Beaumonton. Comment vous l'imaginez, Daphné? Comme une vieille tante grossière, acariâtre, aux cheveux gras, désagréable, mal habillée. Je ne pense pas. Mais vous voyez, de la même façon qu'on est enclin à nous faire des idées concernant les gens dont on entend parler, et c'est normal, c'est naturel, on se fait des idées sans les connaître, ni nous renseigner vraiment à leur sujet. De la même façon, on est enclin à se faire des idées au sujet de Dieu. Sans prendre la peine de consulter la seule source objective de renseignement concernant Dieu. La seule source objective et infaillible de renseignement concernant Dieu, à savoir la Bible. Et ces deux versets-là, versets 8-9, sous la forme d'une ce qu'on appelle une doxologie, une formule qui est censée glorifier, exalter Dieu et le glorifier, ben, sous la forme de cette doxologie, ces versets, au cœur même de ce passage, résument bien trois des caractéristiques les plus importantes du vrai Dieu. Il est le Dieu créateur et le régisseur de l'univers, d'une part. Il est l'Éternel, le Dieu de l'Alliance de grâce, celui qui a voulu se racheter un peuple, d'autre part. Et troisièmement, il est le Dieu juste, un juge suprême et redoutable. Eh bien, est-ce que c'est votre Dieu? Est-ce que c'est bien l'idée que vous avez de lui? Eh bien, sinon, ce texte nous invite, dès à présent, à commencer à nous renseigner dans la Bible pour savoir comment est Dieu. Mais regardons la suite du texte, parce qu'on va découvrir quelle est, au fond, la racine de notre problème. Et les versets 10 à 13 vont décrire de nouveau la situation du peuple, avec le but de révéler précisément quelle est la racine du problème, le symptôme du problème et la conséquence du problème. Le symptôme du problème, c'est que les puissants exploitent les faibles et que les juges du peuple sont corrompus. Okay? La conséquence du problème, c'est que Dieu va châtier le peuple conformément aux avertissements qui avaient été donnés longtemps, très longtemps, auparavant. Mais la racine du problème, nous dit le texte ici, c'est qu'au fond, les Israélites détestent la vérité. Verset 10. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Et ils ont horreur de celui qui parle sincèrement. Les Israélites détestent la vérité dans ce texte. C'est un problème de cœur. C'est la racine du problème. Dieu fait le diagnostic de ce mal profond pour inciter son peuple à reconnaître la raison fondamentale du tableau qui a été dressé au début de cette jeune fille vierge, couchée à terre, abandonnée, délaissée. Les Israélites haïssent la vérité dans ce texte parce que la vérité dénonce leur propre convoitise et qu'il est quand même agréable de vivre selon sa convoitise et son orgueil. N'est-ce pas ? Plutôt que d'accepter que ça pose un problème et de devoir se remettre en question. Si je vous disais, moi, aujourd'hui, que vous deviez renoncer à l'objet de votre amour, vous le prendriez sûrement pas bien. Imaginez que je vous dise ce matin, écoutez, les amis, vous devez arrêter de soutenir l'Olympique Lyonnais. Si je vous disais, écoutez, mes amis, vous devez arrêter d'écouter votre musique préférée. Si on vous disait d'arrêter d'être amoureux de votre fiancé, si on vous disait d'arrêter de boire du bon vin avec un bon repas, comment vous réagiriez? Je ne pense pas que vous seriez très content. Je pense que vous résisteriez. Et peut-être même que vous deviendriez un peu agressif, voire violent, si vraiment je me montrais trop insistant. Mais dans le texte, Dieu révèle notre problème fondamental comme étant du même ordre. Nous sommes amoureux de nos convoitises et nous détestons la vérité qui les dénonce, ces convoitises. Nous résistons, nous protestons, et ce n'est pas parce qu'on est des protestants, hein, ça n'a rien à voir. Nous protestons et ce n'est pas une bonne chose et nous aimerions faire taire ces voix contradictoires, comme dans le texte où il est dit au verset 13 que l'homme intelligent a fini par se taire. Le seul qui avait des choses justes à dire, il a fini par se taire. Pourquoi ? Parce que les temps sont mauvais. Le Nouveau Testament répète exactement la même chose, bien des siècles plus tard. C'est l'apôtre Paul qui écrit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité, hein, et se tourneront vers les fables. » Alors, question ce matin. Comment réagissons-nous à la vérité? Surtout lorsque celle-ci contredit l'objet de notre amour. Comment réagissons-nous quand la Bible nous dit « pas de relation sexuelle en dehors du mariage » ou quand la Bible nous dit « pas de grossièreté dans la bouche du chrétien » ou quand la Bible nous dit « arrête de dire du mal de ton collègue. » Comment réagissons-nous? Ou encore quand la Bible nous dit « respecte tes parents et honore-les ». Ou encore quand la Bible nous dit « aime ta femme d'un amour sacrificiel ». Comment réagissons-nous quand nous entendons la vérité et surtout lorsque celle-ci contredit l'objet de notre amour, de nos convoitises? Sommes-nous prêts à reconnaître quelle est la racine de notre problème selon Dieu? Et si oui, alors regardons la suite et la fin du texte, parce que si nous reconnaissons quelle est la racine de notre problème selon Dieu, alors la suite et la fin, c'est pour nous. Mais si nous ne reconnaissons pas, alors vous pouvez arrêter d'écouter, parce que ça ne vous concerne pas. Les versets 14 et 15, ils décrivent en toutes lettres ce que cela veut dire de reconnaître la racine de notre problème et de recevoir le remède que Dieu a prévu pour nous. Chercher Dieu selon ces termes, d'après ce texte, ça équivaut à un changement total de direction. Une réelle conversion. Littéralement, ça veut dire changer de direction, faire un tourner à 180 degrés, quoi. Un changement d'allégeance. L'objet de notre amour doit changer. Et si l'objet de notre amour change, alors notre comportement change nécessairement. Imaginez que vous décidiez d'arrêter de soutenir l'équipe de foot de Saint-Étienne pour soutenir à la place l'équipe de foot de Lyon. Okay, je ne dis pas que c'est votre cas, j'espère pas pour vous que vous soutenez Saint-Étienne. Bref, je ferme la parenthèse, mais imaginez que vous arrêtiez de soutenir l'équipe de foot de Saint-Étienne pour soutenir l'équipe de Lyon à la place. Ça, c'est un changement radical. Okay, c'est un demi-tour à 180 degrés, on est d'accord ? Mais vous croyez que vous pouvez changer l'objet de votre amour sans que votre comportement change ? Est-ce que vous iriez quand même assister au match entre Lyon et Saint-Étienne en portant du vert ? Je pense qu'en toute logique, vous vous débarrasseriez de vos écharpes et de vos maillots de Saint-Étienne et vous vous en procureriez des nouveaux aux couleurs de Lyon, n'est-ce pas ? Ça paraît tellement logique. L'objet de votre amour change, le comportement change par nécessité. Pardonnez-moi cette comparaison irrévérente, bien sûr, mais d'une certaine façon, dans le texte aussi, Dieu est en train de nous montrer que le remède prévu par lui consiste, entre guillemets, à changer d'équipe, à ne plus aimer le mal, mais à aimer le bien à la place, et que cela entraîne logiquement un changement au niveau de notre comportement. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte le droit. Mais surtout, si Dieu tient à nous montrer à quoi ressemble la vraie conversion à Dieu, c'est parce que cette invitation à le chercher, cette invitation à chercher le bon Dieu, est accompagnée d'une promesse exceptionnelle. Et il la répète ici, cette promesse. C'est la promesse de la vie. C'est la promesse d'une véritable réconciliation avec le véritable Dieu. Dieu nous invite à cesser de soutenir l'équipe qui perd à la fin et il nous invite à nous joindre à l'équipe qui gagne à la fin. L'équipe de la vie plutôt que l'équipe de la mort. Et cette victoire, ce salut, cette vie, cette réconciliation avec lui-même, Dieu l'a réalisé conformément aux promesses de l'Alliance qui dure depuis des générations et des générations, déjà à ce moment-là de l'histoire, mais qui dure encore depuis plus longtemps pour nous aujourd'hui, conformément aux promesses qu'il avait conclues, qu'il avait faites à Abraham et ensuite à la descendance d'Abraham, à tout le peuple d'Israël et dont toute la Bible parle. Il a réalisé tout cela en envoyant son propre Fils, Jésus-Christ, pour supporter le jugement de nos fautes à notre place, pour supporter le jugement des fautes de tous ceux qui se confient en lui. Il a réalisé cette vie, il a réalisé cette réconciliation, il a réalisé le pardon de nos fautes, il a réalisé le salut pour nous par son Fils Jésus-Christ. Dieu nous invite à aimer la vérité plutôt que le mensonge, à aimer le bien plutôt que le mal, parce qu'avec la vérité, il y a la vie, et tout cela se trouve en Jésus, et c'est lui qui a dit précisément « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le pardon de nos fautes a été garanti par la mort de Jésus et notre vie a été garantie par sa résurrection. Dieu nous invite donc à recevoir le remède qu'il a prévu pour nous, pour tous ceux qui le cherchent véritablement et qui se confient en lui sur la base de ses promesses. Alors, pour conclure, verset 2, nous lisions « Elle est tombée. Elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée sur sa propre terre. Nul ne la relève. » Mais sous la plume de l'apôtre Paul, nous lisons aussi « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. » Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Êtes-vous sûr que votre Dieu est le bon ? C'est une question de vie ou de mort. Mais votre Dieu est le bon, si c'est le Dieu de la Bible. Regardez la vérité en face et considérez les enjeux de cette question. Cherchez Dieu en ces termes. Apprenez à le connaître selon la manière dont il s'est révélé dans la Bible. Reconnaissez que votre problème fondamental, c'est un problème de cœur. Et recevez de la part de Dieu le remède qu'il vous offre en Jésus-Christ. Je termine en vous faisant deux petites lectures. La première dans l'évangile de Luc, chapitre 13. Quelqu'un dit à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. » Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte et que, resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire « Mais nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Et il vous répondra en disant « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Et la deuxième petite lecture, c'est la fin de celle que Judson a faite tout à l'heure dans le livre du prophète Ézéchiel, juste les derniers versets. Revenez et détournez-vous de tous vos crimes, afin que votre faute ne soit pas une pierre d'achoppement. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Oracle du Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen.